Maison Mondiale Sport. Bonjour Hugo Moissonnier et bonjour aux invités.
Mondiale Sport, Hugo Moissonnier.
Et bonjour à Kélis, bonjour à toutes et à tous. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Pour tous et pour toutes, à tous les âges, hein, vous venez de l'entendre, si possible. À l'occasion de la Journée internationale du sport féminin, bon, c'était hier, vous nous excuserez pour ce léger retard. Mondial Sport s'intéresse ce samedi aux sportives en devenir. L'adolescence est un moment charnière, pas toujours le plus agréable, on surnomme ça l'âge ingrat, l'âge bête, c'est un passage de l'enfance à l'âge adulte, une période de transformation dans le corps comme dans la tête et une période de formation pour les sportifs et les sportives. Enfin, les sportives pour ce qu'il en reste. Car selon l'UNESCO, les filles sont 49% à arrêter le sport à l'adolescence. Ça fait environ une sur deux. C'est 6 fois plus que chez les garçons. Les adolescentes seront donc, en guise de maigre compensation, bien représentée ce samedi dans Mondial Sport. Des ados passés et présents, des championnes accomplies reviendront sur leur jeunesse, mais également des jeunes filles de maintenant viendront nous dire comment elles se dépensent en faisant fi de ce que les autres pensent.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 9 ans et j'habite en banlieue parisienne. Je fais du handball. Je suis dans une équipe mixte en U11, c'est-à-dire moins de 11 ans. Le handball, c'est bien, mais les garçons sont énervants. De 1, ils passent pas la balle aux filles. De 2, ils sont pas très sympas. Et de 3, c'est tout le temps eux qu'on choisit pour faire les championnats ou les matchs. Donc moi, ça m'énerve à chaque fois. Moi, j'ai été prise pour un ou deux matchs depuis le début de l'année de septembre 2024. Et j'aimerais savoir pourquoi les entraîneurs ne prennent pas les filles au match. Enfin, les garçons au handball, c'est pas des Teddy Rainer non plus. Enfin, je comprends pas, moi.
Le témoignage, le coup de gueule même de Lucie, 9 ans, alors pas encore tout à fait une ado, mais une jeune fille parmi d'autres qui veut simplement vivre sa passion, mais qui doit jouer des coudes au milieu des petits gars. Il y en aura d'autres tout au long de cette émission, à commencer comme témoignage par celui de Sadio Comon. Bonjour Sadio.
Bonjour.
Alors tu as 14 ans, on va se tutoyer car tu n'as que 14 ans, sportif de haut niveau néanmoins. En taekwondo, donc il faut que je fasse attention. Championne de France 2024. Championne de France dans quelle catégorie exactement?
En moins de 44 kilos. Voilà, et 4 des 3.
Voilà, donc championne de France chez les jeunes encore, mais ça augure pas mal de choses pour l'avenir. On te le souhaite. Tu as été médaillée à la déformation professionnelle à plusieurs reprises à l'international et tu as participé au championnat d'Europe 2024 à Tirana. Donc déjà 14 ans et une belle expérience. Merci d'être là. Donc tu es une ado de maintenant et ce sera précieux d'avoir ton témoignage face à toi. Une médaillée olympique en escrime, Athènes 2004. Bonjour Sarah Danint.
Bonjour Hugo.
Notre
bonjour.
Consultante olympique de retour chez elle sur l'antenne de RFI quelques mois après les Jeux de Paris. Bon, l'adolescence, c'est pas... je cherche une formule, là encore pour pas m'attirer les foudres. Vous avez un souvenir très clair de votre adolescence, on va le dire comme ça. Et vous pratiquez aussi le taekwondo, donc vous êtes ravi d'avoir une jeune taekwondoïste en face de vous. Alors il y a eu un échange très sympa hors antenne, hein, désolé, je dévoile tout avant les missions, puisque Sarah, vous avez montré votre médaille olympique, entre autres, votre médaille de bronze donc d'Athènes en escrime à Sadio. Et Sadio, ça t'a fait quoi de voir en vrai une médaille olympique?
Franchement, ça m'a fait super plaisir et ça m'encourage. J'ai envie de toucher la mienne la prochaine fois.
Ouh, canon.
Est-ce que c'était un peu ça le but, Sarah? Créer de l'inspiration, générer de l'inspiration?
Oui, je pense que c'est important, effectivement. Et puis, moi, j'avais 16 ans quand je me suis lancé dans le projet olympique. Donc, 14 ans, 16 ans, c'est quand même assez proche. Et si ça peut inspirer, tant mieux.
C'est le besoin aussi... que peuvent avoir les sportives adolescentes des modèles, pas seulement pour s'inspirer et avoir des objectifs, mais aussi tout simplement pour savoir que c'est possible quand on est une fille qu'on deviendra une femme, de briller sur les terrains de jeu, quels qu'ils soient.
Oui, oui, bien sûr, c'est important de le voir à la télé, de voir des personnes qui nous ressemblent, parce qu'il y a aussi cette représentation qui nous lance et qui nous donne envie. Mais il y a aussi de voir en vrai, de pouvoir échanger. Là, voilà, j'ai amené une médaille mondiale et puis une médaille olympique. Mais je pense que si on se croise sur Instagram, moi, ça me ferait plaisir de discuter avec elle sur sa préparation, sur pas mal de choses, des conseils, parce que je pense que c'est important de le faire. C'est même presque, ça fait partie en fait du rôle de l'Olympien, de l'Olympienne. Et après, à voir aussi comment elle ou d'autres ont envie de jouer le jeu, quoi.
Voilà, Sadio, une abonnée en plus sur Instagram. Tu n'es pas venu pour rien. Tu viens d'où exactement? Région parisienne,
oui, c'est ça.
Et tu es en troisième. Donc, oui, pour situer, c'est juste avant le lycée. Donc, tu es encore très jeune. Mais le sport, t'en fais depuis combien de temps? Depuis très longtemps?
Depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà, j'ai toujours fait du sport. Avant, je faisais de la danse. Ensuite, j'ai fait du taekwondo. Et puis, j'ai continué parce que j'aimais ça. Et voilà, jusqu'à maintenant, j'en fais toujours.
Ça vient d'où le taekwondo? Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire?
Le taekwondo, alors c'était un manque de confiance en moi. Et du coup, j'ai découvert ce sport et je me suis dit pourquoi pas un sport de combat et ça pourrait m'aider. Et puis j'ai commencé et en fait j'ai tout de suite accroché avec ce sport.
Ta maman Fatou qui me regarde, qui me scrute, qui m'inspecte, est-ce qu'elle t'a aidé
Oui.
Est-ce qu'elle t'a poussé? Est-ce qu'elle t'a conseillé?
Beaucoup. Ma mère aussi, une grande sportive qui m'a toujours poussée en fait, m'a toujours dit faut que tu fasses du sport, c'est important pour ton mental, pour ton corps. Et grâce à elle, j'ai pu goûter au sport, goûter au taekwondo. Et oui, voilà, c'est beaucoup grâce à elle.
Sarah Sadio, vous êtes avec nous pour parler du sport au féminin à l'adolescence. J'ai également des petites surprises tout au long de l'émission. Une autre championne est au téléphone pour nous parler de sa jeunesse. Une vedette du football africain, rien que ça.
Tiens, un shoot qui rentre dans la surface de réparation, qui va avoir une tentative de frappe. Regarde le
Comment oublier le récital d'Adjara Tchout avec son numéro 3 dans le dos, maillot du Cameroun sur les épaules, c'était lors de la Coupe du Monde féminine 2019 en France. L'une des toutes meilleures joueuses africaines de l'histoire récente est en direct avec nous. Quel honneur! Bonjour Adjara!
Ouais, bonjour!
Vous êtes en direct, vous êtes en Arabie Saoudite, puisque vous êtes en train de continuer votre saison en club, hein, je ne me trompe pas?
Ouais, actuellement je suis en Arabie Saoudite.
Alors, on va revenir sur vos débuts, Adjara. Vous allez partager un petit peu aussi votre expérience de jeune fille, d'adolescente. À quel âge vous avez débuté le football? Est-ce que c'était normal là où vous étiez, dans l'Ouest, là où vous êtes née, là où vous avez grandi, dans l'Ouest du Cameroun?
Il faut dire que j'ai commencé le football depuis le bas âge. Hein. Sincèrement, je ne peux pas me rappeler quand même de l'âge, mais je sais que j'ai commencé toute petite. Et au début, ça n'a pas été facile parce que je suis née dans une famille musulmane et pour nous, c'était un peu compliqué. Vous savez, les musulmans, c'est l'école coranique, l'école, vous partez. Après, c'est le mariage. Bon, c'est normal parce que c'est la religion qui demande cela. Mais bien après, il y avait mes oncles qui étaient là, qui aimaient le foot, qui ont essayé de convaincre la famille. Donc voilà comment la famille m'a laissé de jouer au foot.
Mais il y a eu des réticences. Enfin, ça peut être une réalité. En tout cas, ça a été votre réalité de devoir faire face à finalement des chemins tout tracés pour les jeunes filles. Vous avez dû montrer que le sport, c'était aussi pour vous et que vous aviez vraiment votre place. Et maintenant, vous êtes parmi les meilleures joueuses du monde.
Il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le football a toujours été une passion pour moi. Hein. Quand j'ai débuté à jouer, mais au départ, je ne savais pas que je pouvais jouer au football pour être professionnelle. Je jouais juste pour le plaisir. C'était juste une façon de m'amuser, vu qu'au départ, je jouais dans la rue, dans notre quartier, avec mes cousins, des amis. Donc, c'est quand je suis allée une fois à Douala en vacances chez ma grand-mère, en 2006-2007, si j'ai une bonne mémoire, que j'ai été aperçue une fois par l'un de mes coachs qui m'a amenée dans un club où j'ai commencé à jouer avec les femmes. Et si je me rappelle bien, le nom du club était Franc-Rolisec à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté à jouer à Franc-Rolisec, bien après le coach de l'équipe nationale, Enongachou, m'a sélectionné pour la première fois avec les moins de 17 ans. Et c'est où l'histoire a commencé.
Est-ce que c'était...
Donc, c'est à partir de cet instant que la famille a compris que c'était peut-être mon destin.
C'était du sérieux.
Oui, à partir de ce jour, tout le monde était content, même dans la famille, même mon père qui était tellement réticent plus que tout le monde. Il était même le premier fan à me demander à chaque fois, tu reparles.
Le talent a mis tout le monde d'accord. Et avant, quand vous jouiez, alors à l'adolescence, c'était surtout avec des garçons finalement. Donc vous disiez, vous n'aviez pas encore forcément accès à des équipes entièrement féminines. Donc il fallait jouer avec les garçons, c'était compliqué, il fallait s'imposer. Vous étiez difficilement prise au sérieux jusqu'à ce que vous montriez que vous étiez meilleure que tout le monde.
Il faut dire que je jouais uniquement avec les garçons parce que j'étais à Fumban, je ne voyais pas des filles jouer au football. C'est vrai qu'il y avait certaines filles, mais je n'avais pas accès aux équipes féminines. Donc voilà pourquoi je jouais uniquement avec mes cousins dans le quartier. Et pour moi, à l'époque, c'était normal. Hein. Je me disais que c'est comme ça que je devais évoluer avec le temps. C'est quand je suis arrivée à Douala, comme je disais, que j'ai constaté que je pouvais jouer uniquement avec les femmes. Donc c'est à partir de cet instant que j'ai vraiment pris goût. Et quand je suis allée jouer avec des filles pour la première fois, je me suis dit, waouh, je pense que c'est le moment maintenant de découvrir autre chose.
Pourquoi c'est important peut-être que les jeunes filles au Cameroun ou ailleurs puissent avoir accès le plus tôt possible à des équipes féminines, justement, qui prennent en compte le fait des filles peuvent jouer aussi et qu'elles doivent avoir aussi leur propre structure, leurs propres équipes, leurs propres vestiaires et ainsi de suite?
Je pense que c'est important de commencer dès le bas âge parce que si tu veux faire une carrière, si tu aspires peut-être à jouer au haut niveau, il faut commencer dès le bas âge dans un centre de formation pour avoir une bonne base. Parce que vous savez, quand vous arrivez en Europe et que vous n'avez pas la base, c'est un peu compliqué parce qu'en Europe, quand vous arrivez, vous trouvez des jeunes filles qui ont fait des centres de formation. Elles ont des trucs basiques dans le football, contrôle, passe. Et c'est tellement facile pour vous de vous adapter avec eux si vous avez été dans ces conditions. Donc c'est ce qui est important en Afrique, de commencer tôt dans les centres de formation.
Donc vous appelez quelque part les dirigeants, ne serait-ce que du football camerounais, à bien prendre ça en compte. Le Cameroun qui est plutôt un bon pays en termes de football féminin. Vous avez réussi de belles choses avec la sélection.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est le plus important. Hein. Parce que la formation des jeunes, c'est la priorité. Quand vous êtes en Europe, vous constatez que si vous n'avez pas été dans un centre de formation, vous avez perdu beaucoup de choses. Mais je pense qu'actuellement, nous avons un bon championnat au Cameroun, qui est la Guinée Super League. Et avec tout ce que nous avons déjà eu à faire avec l'équipe nationale, les plus jeunes prennent vraiment d'exemple. Donc, les gens s'y mettent vraiment.
Est-ce que vous avez envie de passer un message aux adolescentes camerounaises et africaines qui vous écoutent aujourd'hui? J'imagine que vous en rencontrez souvent et que vous leur servez de modèle. Vous n'aviez pas forcément de modèle quand vous avez débuté, mais maintenant vous êtes le modèle des jeunes camerounaises.
Oui, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est de croire à leur talent, surtout les familles, d'encourager des jeunes filles. Parce que vous savez, quand vous débutez et que vous n'avez pas assez de soutien derrière vous, c'est un peu difficile parce que vous êtes parfois dans un quartier où tout le monde dit « c'est quelle fille garçon ça qui court tous les jours avec des petits garçons, tu ne peux pas aller jouer avec des filles ». Donc, il ne faut pas tenir compte de tout ça parce que quand on est jeune, on essaye de faire le maximum comme on peut. Mais tout ce que je vais dire à nos jeunes petites sœurs, aux parents surtout, c'est d'accompagner les mineurs dans leur rêve parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est peut-être en les encourageant comme ça qu'elles peuvent continuer à croire en elles et devenir aussi des futurs Adjara demain.
Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci d'avoir pris quelques minutes, Adjara, pour nous parler au téléphone. On se rappelle rapidement hein, sur Mondial Sport. Vous êtes évidemment toujours la bienvenue sur l'antenne de RFI, Adjara Nchout. Et puis, on vous souhaite bon courage pour votre saison en cours en Arabie Saoudite. Puis, on espère vous revoir bientôt en sélection.
Ok, merci beaucoup et à tous vos téléspectateurs aussi.
Merci beaucoup, Adjara Anchout. Sarah, peut-être un petit mot là sur ce que vous venez d'entendre. Cette idée que le talent arrive quand même un peu à briser des murs, c'est plutôt rassurant.
Ouais, je trouve ça fou, cette histoire, elle est forte. Parce qu'en plus, là, on parle de religion, donc c'est quand même quelque chose à laquelle la famille, ou même culturellement, est très, très ancrée. Et là, elle arrive en fait à changer la position, la posture en fait, de sa famille. Même son père, qu'elle dit, qui est presque son fan numéro 1. C'est incroyable.
Sadio, 14 ans, je ne sais pas si tu suis le football ou le football féminin et si ce témoignage t'a interpellé, touché.
Si, je suis beaucoup le foot parce que notamment ma famille est beaucoup dedans. Et si, ça m'a fait plaisir d'entendre cette histoire parce que je suis moi aussi originaire d'Afrique et c'est des histoires dont j'ai beaucoup entendu parler. Et quand on entend une personne qui vient du fin fond de l'Afrique et qui n'était pas très connue et qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens s'en sortir et maintenant pouvoir faire ce qu'elle aime et surtout le foot pour une fille, franchement ça fait vraiment plaisir et on voit que le sport ça peut dépasser beaucoup de limites.
Sadio Komon, originaire de quel pays donc,
Du Mali.
Le Mali, évidemment, on salue le Mali à travers toi et ton parcours. Sarah Danin, t'es également là. On parle des jeunes sportifs, des adolescentes, le sport féminin dans ce moment charnière de la vie dans Mondial Sport sur RFI. Mais d'abord, mon cousin militaire, Denis Elwood. Ça vient du Cameroun, comme Adjara, justement.
Quand il s'en va en guerre, là-bas vers la frontière, moi je fais des prières. Moi je fais des paternosters. Une guerre frontalière, une guerre incendiaire, une guerre meurtrière, une guerre suicidaire. Heureusement que c'est un vaillant militaire. Quand il revient de guerre, me garde des pommes de terre, des bouts de pain rassis, de la sardine à l'huile, quelques kilos de riz, c'est de ça que je me nourris. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. J'ai pourtant fait le cours élémentaire, je sais lire, je sais compter. Je me récite le corbeau et le renard. Mes jouets dans Ornicar. Je maîtrise même la grammaire. Bijoux, cailloux, je joue palcal, carnaval. Faites quelque chose pour moi, mes frères. Je veux pas mourir dans la misère. Je veux pas finir dans la galère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire.
Mon cousin militaire, Denis Elwood, sur RFI.
Bonjour, je m'appelle Kélis, j'ai 11 ans, j'habite près de Paris et je fais de la gymnastique depuis 4 ans. Cette année, c'est ma 4e année et je participe à plusieurs compétitions. Avant de commencer la gym, je faisais très peu de sport. Je jouais du violon, que j'aimais beaucoup, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de me dépenser. Avant ça, je faisais de la danse. Au début, j'étais très timide, mais la gymnastique m'a vraiment aidée à me dépenser et à prendre plus confiance en moi. Je n'ai pas encore totalement confiance en moi, mais je sais que j'ai progressé. Je sais que je ne suis pas nulle. Au contraire, je suis merveilleuse.
Elle a pris confiance en elle, Kelly, une autre adolescente qui témoigne dans notre émission, tout comme Sadio Komon, jeune championne de taekwondo en région parisienne. Sadio, tu as parlé aussi du fait de prendre confiance en soi à travers le sport. Alors en quoi est-ce que, là c'était la gymnastique, mais toi c'est un sport de combat, comment est-ce qu'on acquiert de la confiance en soi à travers le sport? Est-ce que tu saurais nous décrire ça?
Déjà du fait de se dépenser. En fait, tu te dépenses et tu transpires, mais en fait ça te fait plaisir et quand tu vois d'autres personnes le faire à côté de toi, c'est encourageant, c'est entraînant. Il y a aussi les performances. Quand tu gagnes des médailles, évidemment, tu es fier de toi. Et petit à petit, tu prends confiance en toi, tu te dis « Ah bah, en fait, je suis peut-être forte, finalement, et peut-être que mes efforts, ils ont servi. » Et c'était beaucoup de confiance en moi et de gagner des compétitions, mais aussi de m'entraîner avec des camarades. Et ça me fait reprendre confiance en moi.
Sarah Danint, c'était la même chose pour vous quand vous étiez plus jeune, adolescente. Il y avait cette idée de construire sa confiance en soi, la bâtir grâce au sport.
Ouais, totalement. Je rajouterais le fait de s'entraîner aussi de manière quotidienne. Alors moi, l'escrime, quand j'ai commencé, je commençais très jeune aussi. J'ai commencé vers l'âge de 4-5 ans. J'étais toujours avant. Mon meilleur résultat, c'était avant-avant-dernière, et ça pendant quand même pas mal d'années. Et du coup, c'est... En fait, le fait des répétitions, d'être là quotidiennement, donc de l'engagement, d'y aller, en fait, l'envie. Et tout ça, ça permet aussi de se construire et de sentir plus forte. Puis si en plus, derrière, on a des résultats, on a une meilleure estime de soi. Et par l'estime de soi, on arrive effectivement à avoir une meilleure confiance en soi, petit à petit.
Alors, la question un petit peu évidente qui se pose, en tout cas que j'ai envie de poser à vous, mesdames, mesdemoiselles, est-ce que, tout simplement, c'est difficile de faire du sport, quand, notamment un sport de combat, Sadio, quand la société semble encore très portée sur l'idée que ça, c'est quand même une histoire, une affaire de garçons? Est-ce que tu reçois des remarques, est-ce que même des blagues, même des petites réflexions qui peuvent être décourageantes de la part de camarades, de coachs, d'adultes?
Oui, ça m'est arrivé à l'école, notamment quand des garçons ils veulent se mesurer à moi en me disant « oui, mais t'es une grande sportive, donc tu peux me battre ». Mais en fait, je trouve que c'est triste parce que... c'est pas parce qu'on est à haut niveau qu'on doit se mesurer à des garçons ou pas. C'est juste que voilà, chacun combat comme il combat, chacun s'entraîne comme il s'entraîne. Et je trouve ça dommage de se mettre en concurrence et de toujours voilà, parce que t'es une femme, tu dois prouver ta place. Alors que non, pas forcément. En fait, on n'a pas besoin de trouver une place, on le fait parce qu'on a du plaisir à le faire, c'est tout.
Et parce qu'on a du talent et des résultats. Et est-ce que, de la même manière, tu as l'impression que des copines, des connaissances, des filles qui ont pu faire du taekwondo avec toi se sont mises des limites, ont arrêté, se sont un peu découragées parce que peut-être elles n'ont pas senti que c'était leur place. Tu as fait de la danse, le témoignage de Kélis qu'on entendait, il faut passer par le violon ou la danse, peut-être des activités mieux acceptées socialement comme étant féminines. Est-ce que tu as senti ces choses-là autour de toi?
Alors autour de moi, j'ai pas forcément senti une différence par rapport au fait que j'étais une femme, mais j'ai senti une différence par rapport au fait que je venais pas forcément du même milieu que tout le monde, ou juste parce que j'avais pas forcément le même âge que tout le monde. Je m'entraîne souvent avec les adultes, et du coup. Oui, parfois, je peux être, je peux me sentir un peu mal ou des choses comme ça. Après, des camarades, j'en ai qui, parfois, ont eu du mal par rapport à leur vie sociale, qui trouvaient que ça prenait beaucoup de place dans leur vie. Moi, ça prend beaucoup de place dans ma vie, mais après, c'est parce que je l'ai accepté et parce que j'aime le faire au quotidien. Donc,
t'as quand même du temps pour les devoirs,
pour les sorties, ce genre de choses. Je m'organise surtout, mais... oui, après, on ne peut pas sortir tous les week-ends, il y a entraînement, le soir, il y a entraînement, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'hésite pas parfois à prendre des petites pauses pour sortir avec mes copines. Je coupe pas non plus ma vie sociale, c'est sûr, je pourrais pas le faire.
Mais c'est vrai qu'on parle de la société, l'adolescence, Sarah Danint, alors je suis pas psychologue, je vais faire de la psychologie un peu de comptoir, comme on dit, c'est le moment où on se construit aussi par le regard des autres, on change dans la tête comme dans le corps. Le sport, il est facile à placer là, d'autant plus quand on est une jeune fille, avec tout ce que ça peut comporter comme problématique. Elle serait longue à énumérer.
Je pense que... Alors, quand on est ado, on a aussi le corps qui change, déjà. C'est aussi, d'ailleurs, une des raisons principales quand on regarde les études qui fait que les jeunes filles, les ados aussi, arrêtent, parce qu'elles ne se sentent pas toujours bien accueillies avec le corps qui change. Je pense qu'on n'a pas besoin de détailler. Il y a ça. Et je pense que... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai mal vécu, perso, par exemple. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je jouais au foot, je faisais du judo et du BMX avec les copains. Et c'est vrai que à partir du moment où le corps a commencé à changer, mes potes ont eu un regard différent, une attention différente, me rentrer un peu moins dedans, par exemple, sur le judo. Et ça, c'est encore hyper présent, alors que nous, si on est là, c'est parce qu'on justement on kiffe notre sport, on veut juste s'éclater. Et c'est presque dénigrant finalement d'essayer de baisser son niveau pour être au niveau supposé d'une jeune femme et que du coup ou l'inverse d'ailleurs, parce que moi aussi à l'escrime quand je mettais des fessées en fait à certains hommes sur les compétitions, derrière parfois je me prenais des gros coups d'épée dans le corps.
Ah, vous aviez touché
l'ego, ça fait
l'ego,
un petit peu
voilà
mal,
exactement l'ego viril.
Mais on sait que c'est présent dans la société, c'est pas forcément présent que dans le sport, mais on fait avec et je pense que c'est aussi important d'arriver, justement, quand on parle d'estime de soi et de confiance en soi, ça nous permet par la suite, justement, de nous imposer et de montrer qu'on est présente, justement.
Allez, un petit point sur l'actualité sportive de ce samedi 25 janvier 2025 dans Mondial Sport. On continue à parler du sport au féminin, le tennis, l'Open d'Australie, puisque l'américaine Madison Keys a créé la sensation en dominant la numéro 1 mondiale, double tenante du titre à Melbourne, Arina Sabalenka, un succès en 3 manches après 2 heures de match, premier grand chelem à 29 ans pour l'américaine Madison Keys. En football, la 19e journée de Ligue 1, Monaco qui pour l'instant réalise une bonne opération en menant face à Rennes 1-0, Monaco qui est à la lutte pour les places en Ligue des Champions, tout comme Lille qui sera à Strasbourg tout à l'heure, et le PSG, un intouchable leader qui sort d'une belle victoire face à Manchester City en Ligue des Champions, affrontera Reims à 20h05, temps universel. Qu'est-ce que j'ai à vous dire également? Je vais vous parler basket quand même, ça c'est important. La NBA prend ses quartiers ces jours-ci en France, les NBA Paris Games, la deuxième rencontre entre les Spurs de Wembanyama et les Pacers de Pascal Siakam, c'est vraiment de la NBA, c'est juste délocalisé à Paris. Donc ce deuxième match entre les Spurs et les Pacers, ce sera ce soir. Ce sera de nouveau à Bercy, au cœur de la capitale française. Ce sera de nouveau sous les yeux d'un allié de Sarah Danhaert lors des Jeux Olympiques, à savoir Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sarah, dont la présence me rappelle de bons souvenirs olympiques.
Est-ce que vous allez goûter un peu à ces NBA Paris Games, Sarah?
Je suis allé voir le match déjà jeudi okay. soir. Et puis là, direct en rentrant, je vais regarder.
Bon, c'était chaud l'ambiance, vous me confirmez jeudi?
C'était sympa.
C'était sympa, alors... quid de celle de ce soir attendue? Alors c'est samedi, peut-être que ça va, et puis c'est la fin, hein, tout simplement, c'est le bouquet final. Victor, est-ce que ça va être très très chaud ce soir?
Alors ça devrait être plus chaud que jeudi, tout simplement parce que les San Antonio Spurs cette fois seront à domicile, du moins officiellement d'après la NBA. Et donc en fait ça va faire que la sono, les speakers, les animations, tout ça sera guidé en fonction des San Antonio Spurs comme s'ils étaient à domicile. C'est pour ça qu'on était un petit peu à contre-temps jeudi. La salle, globalement, évidemment, vous vous en doutez, était acquise aux San Antonio Spurs. Mais voilà, ils ont été présentés en premier. C'était peut-être un petit peu moins chaleureux. Il y avait là un grand drapeau des Pacers au milieu de la salle avant le match. Donc voilà, on peut s'attendre à un petit peu plus d'ambiance dans une salle dont le public, certes, est très français, mais aussi vraiment international. On le rappelle, 53 nationalités au total qui vont assister à ce match. C'est tout simplement un record pour un match de la NBA, nous a confié Adam Silver, le patron de la Ligue cette semaine.
Bon, vous allez vous régaler, nous raconter tout ça sur RFI. Et puis demain, une émission justement à Mondial Sport consacrée à ces deux matchs parisiens de la NBA. Vous serez là en studio. Victor Missistrano, Sarah Danhaert sera de retour. Sarah Danhaert, avec laquelle on parle ce samedi de l'adolescence pour les jeunes sportives.
Bonjour, je m'appelle Anya et j'ai 12 ans. J'habite en Île-de-France. J'ai commencé à faire du judo à mes 9 ans, mais j'ai arrêté quand j'ai eu ma ceinture orange. Aujourd'hui, j'exerce un nouveau sport appelé le badminton, car je voulais exercer un autre domaine. J'aime faire du sport et les compétitions, surtout quand c'est amusant. Et j'incite tout le monde à faire du sport.
L'adolescence pour les jeunes filles, c'est un moment déterminant pour le sport au féminin, car c'est le moment où se creusent malheureusement les inégalités filles-garçons, hommes-femmes. Une adolescente sportive, c'est aussi une fille qui devient femme. Sadio, comment vous disiez, tu disais à 14 ans, t'entraîner régulièrement avec des adultes, comment on fait pour justement se confronter au monde des adultes via le sport? Est-ce que ça peut poser certaines difficultés ou au contraire tout ça est très bien encadré? Je rappelle que tu fais du taekwondo à haut niveau. Il y a aussi la pression de la compétition. Est-ce que tout ça est bien géré? Tu n'as pas l'impression qu'on te fait grandir trop vite, si je puis dire?
Non, pas du tout. Après, c'est aussi un choix de ma part. Voilà. Je sais que m'entraîner avec les adultes et filles et garçons, ça me fait évoluer aussi. Et donc voilà, c'est un choix de ma part. Je l'accepte. Peut-être que voilà, j'ai pas le même poids qu'eux, pas la même corpulence. Après, je donne mon possible. Et c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de bienveillance des adultes envers moi, qui ont parfois plus d'expérience et qui n'hésitent pas, voilà, à me donner des conseils. Et même si ensemble on s'entraîne à fond, voilà, il y a vraiment toujours ce respect, cette bienveillance entre nous.
Sarah Danante, je vais évoquer rapidement un sujet pas simple, on pourrait le traiter plus en longueur. On l'a traité d'ailleurs dans le cadre du taekwondo en Côte d'Ivoire, dans Mondial Sport, il y a quelques semaines. Ce qu'on appelle les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles dont peuvent être victimes les jeunes sportifs. C'est aussi une problématique de l'adolescence, du sport à l'adolescence. On a beaucoup parlé avec vous de Simone Biles lors des Jeux Olympiques, qui a été une victime. Ça, c'est une problématique absolument à prendre en compte, Sarah Danante.
Ah bah oui, totalement, puisque ça peut quand même détruire psychologiquement la vie de quelqu'un jusqu'à quelque chose de très très grave, en fait. Donc oui, c'est quelque chose à prendre en compte. Il se passe des choses dans beaucoup de pays, il se passe des choses en France. Je pense qu'il y a encore moyen d'élever encore un peu plus la vigilance, la surveillance et puis même les sanctions, vraiment. Sur ces sujets-là. On est aussi dans un monde qui bouge, dans un monde avec des réseaux sociaux. On a la possibilité plus facilement aussi de dénoncer des comportements qui ne conviennent pas et qui, quand parfois juridiquement, ne sont pas correctement pris en charge aussi, quand même de dénoncer les choses. Donc c'est quand même plus simple aujourd'hui, en tout cas, de communiquer de manière nationale ou internationale, d'avoir de la visibilité là-dessus, et puis d'interpeller, en fait, et de afficher, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent, les gens ne se laissent pas faire, et je pense que ça, c'est aussi important de l'entendre. Et puis même, on se mobilise d'ailleurs tous et toutes ensemble, et je pense que c'est cette question d'unité qui est super importante aussi là-dedans, quoi.
Béatrice Barbus est en direct avec nous dans Mondial Sport. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci beaucoup d'être avec nous, ancienne handballeuse et sociologue du sport, entre autres, accomplissement. Votre CV, on arriverait à la fin de l'émission si je le déroulais. Béatrice Barbus, je voudrais vous faire réagir à un témoignage très fort qu'on a entendu en début d'émission, qu'on voudrait vous repasser. Vous connaissez bien, parce que vous l'avez pratiqué, le handball. Eh bien, on va vous faire écouter Lucie, jeune pratiquante de 9 ans.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 9 ans et j'habite en banlieue parisienne. Je fais du handball, je suis dans une équipe mixte en U11, c'est-à-dire moins de 11 ans. Le handball, c'est bien, mais les garçons sont énervants. De 1, ils passent pas la balle aux filles. De 2, ils sont pas très sympas. Et de 3, c'est tout le temps eux qu'on choisit pour faire les championnats ou les matchs. Donc moi, ça m'énerve à chaque fois. Moi, j'ai été prise pour un ou deux matchs depuis le début de l'année de septembre 2024. Et j'aimerais savoir pourquoi les entraîneurs ne prennent pas les filles au match. Enfin, les garçons au handball, c'est pas des Teddy Rainer non plus. Enfin, je comprends pas, moi.
Béatrice, Lucie, 9 ans, elle a raison de pousser son cri du cœur, son coup de gueule même.
Bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr qu'elle a raison.
Alors, oui, allez-y.
Juste, je voudrais. C'est du classique, que ce soit au handball ou dans d'autres sports, mais dans le handball, bien sûr, c'est pas la seule. Ma petite fille a arrêté pour la même raison qu'elle, le handball. Bien évidemment qu'elle a raison de crier. D'abord, je voudrais revenir sur deux. Avant de revenir sur ce que vient de dire Lucie, je voudrais revenir sur. Il y a, contrairement à ce que l'on pense, proportionnellement, les filles à l'adolescence ne sont pas beaucoup plus nombreuses que les garçons à abandonner leur pratique fédérale. D'accord, j'entends depuis 10 minutes, là, je vous écoutais.
D'accord.
J'ai entendu dire qu'à l'adolescence, les filles arrêtent beaucoup plus que les garçons. Proportionnellement, non. En valeur absolue, oui. Elles sont plus nombreuses à abandonner que les garçons. Mais je vais vous donner une statistique. L'écart entre les filles et les garçons entre 15 et 19 ans, il y a 39%, moins 39% et la baisse pour les garçons, moins 44% pour les filles. Donc, dans les deux cas, ça, il y a des abandons. Il n'en demeure pas moins qu'en effet, l'abandon définitif touche beaucoup plus les jeunes filles que les garçons. Mais je voulais remettre ça un petit peu,
oui,
parce que
vous,
là aussi,
vous,
on a des...
Vous
tout ça
bien.
Pour dire quoi ? Tout ça pour dire que là aussi, la première raison que l'on donne de l'abandon des filles, c'est le rapport au corps. Sarah, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, ce n'est pas la première raison quand on regarde les dernières études qui ont été faites en sociologie. La raison principale,
oui,
c'est la socialisation familiale, la façon dont on éduque les garçons et les filles. Le sport est une activité normale, voire quasi même obligatoire pour les garçons et les petits garçons. Quand dans une famille, il y a un jeune garçon et une jeune fille, qu'il faut choisir entre l'un et l'autre pour faire une activité hors école, hors scolaire, on mettra plutôt le garçon dans le sport, et la petite fille plutôt dans des activités artistiques. Donc cette raison de socialisation familiale fait que on se retrouve avec un nombre beaucoup plus important de jeunes garçons qui font du sport que de jeunes filles. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment que les filles abandonnent plus que les garçons. Mais en réalité, l'écart n'est pas très grand. En revanche, oui, il y a beaucoup plus de jeunes garçons qui font du sport que les garçons. En fait, les garçons, le fait qu'on pense que les filles abandonnent plus, c'est lié au surinvestissement du sport par les jeunes garçons. Ils sont beaucoup plus nombreux, donc ils font masse, bien évidemment. Et troisièmement, il y a ce que vient de dire Julie. La troisième raison pour laquelle les jeunes filles ont tendance à abandonner, c'est l'accueil qu'il y a dans les clubs. Le mauvais accueil, en l'occurrence, qu'il y a dans les clubs. Elle vient de le dire, notamment de la part des éducateurs et des éducatrices de jeunes enfants. Dans la plupart des sports collectifs, les sports de cet âge-là, 9 ans, de la jolucie, sont mixtes. Et une des raisons pour lesquelles, effectivement, elles abandonnent, c'est ce qu'elle vient de dire. Les éducateurs, les éducatrices ne sont pas bien formés pour intervenir et pour essayer d'apprendre aux petits garçons à faire des passes autant aux garçons qu'aux filles. Et surtout, ils ne sont pas très bien formés, ou en tout cas, ils ont la championnite en tête, et donc ils sélectionnent les meilleurs et ils considèrent par avance que les garçons sont meilleurs que les filles. Et donc, il arrive effectivement dans des équipes mixtes que ce soit les filles qui jouent le moins souvent, en tout cas en sport collectif.
Et alors, est-ce qu'il y a des solutions sur ces sujets ? Est-ce que ça évolue dans le bon sens ?
Alors,
parce que vous observez des évolutions positives ?
Des évolutions positives, pas tellement, mais il y a des dispositifs qui permettent effectivement de fidéliser les petites filles et de faire en sorte qu'elles n'abandonnent pas. C'est la non-mixité. Mais il n'y a pas de règle. Parfois, on est obligé de faire des équipes mixtes parce qu'il n'y a pas suffisamment de filles pour faire des équipes filles. Je vais vous donner juste cet exemple d'une jeune fille qui est internationale d'athlétisme et qui est jeune, hein, qui a 22 ans, et qui s'est aperçue que dans son club de la banlieue parisienne, les jeunes filles en athlétisme, on s'entraîne en mixité. Hein, on ne s'entraîne pas d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles. Et elle a constaté au fil des années qu'elle entraînait, elle entraînait des jeunes filles, des jeunes garçons, que les filles abandonnaient. Donc elle a proposé au staff d'entraîneurs de ce club, il y avait 5 garçons entraîneurs et 3 jeunes filles entraîneuses, elle leur a proposé de créer pour l'année suivante un groupe non mixte, que de jeunes filles. Les garçons ont refusé. Donc, on en a parlé, elle est venue me voir, on a discuté, bref, etc. Elle est allée voir le président. Le président a accepté. Donc, l'année suivante, elle a fait un groupe non mixte. Ils avaient mis la barrière et la limitation à 20 filles juste. Quand je l'ai revue 3 mois après la rentrée, elles étaient déjà 27 jeunes filles inscrites. Il n'y en a aucune qui voulait partir. Au contraire, elles étaient obligées de fermer les inscriptions. Donc, il y a une solution, hélas, j'ai envie de vous dire, pour ces jeunes catégories, c'est en tout cas de faire de la non-mixité, pour qu'elles se sentent, bah, comme elle l'a dit Julie, en tout cas, elles se sentiraient plus en confort. Les garçons se comportent mal, et bah là, elles auraient moins cet effet-là. Et puis, il n'y aurait plus l'effet « je passe pas la balle », puisque là, elles sont entre filles. J'ai envie de dire que c'est bien dommage de voir qu'en 2025, c'est cette solution-là qui soit encore la meilleure dans les jeunes catégories pour faire en sorte que les filles n'abandonnent pas. Mais sur le terrain et les enquêtes qui sont faites, c'est ce qu'on constate.
Est-ce que Paris 2024 a été un coup d'accélérateur ? On a beaucoup parlé du fait que les Jeux allaient aider le sport. On a vu d'un point de vue budgétaire, ce n'était pas trop le cas. Mais est-ce que ça peut faire avancer les mentalités ? Parce qu'on a mis en avant des sportives et pas que des sportifs.
oui, ça participe effectivement de l'avancée des mentalités, mais un tout petit peu. Parce qu'en effet, comme vous le dites, pendant 3 semaines, même si on met bien entendu les Jeux paralympiques dedans, pendant quasiment 1,5 mois, 2 mois, on a vu des sportives qui étaient mises en avant. Ceci étant dit, quand on regarde les résultats de l'enquête de l'ARCOM qui a été rendue publique avant-hier, on constate que là encore une fois, les sportives ont été moins médiatisées que les garçons, même si on se rapproche des 40% de visibilité dans tout ce qui a été retransmis, mais elles sont encore moins médiatisées, que ce soit la radio ou que ce soit la télévision. Et surtout, la façon dont on en parle de ces exploits sportifs, on voit encore une fois qu'il y a derrière encore des stéréotypes et surtout beaucoup de sexisme, puisque les hommes, on commande surtout leur performance sportive et les femmes, on commande surtout un certain nombre de polémiques, comme ça a été le cas avec la boxeuse Imane Khelif. Donc, oui, ça joue bien évidemment, surtout quand elles ont des résultats. Mais encore une fois, ces résultats-là sont à court terme et moyen terme. Vous allez avoir, et c'est ce qu'il y a eu à la rentrée 2024-2025, un plus grand nombre de jeunes filles qui ont voulu prendre une licence. Après, se pose, et là vous avez fait référence au budget, se pose la question des possibilités d'accueil. Et à un moment donné, on ne peut plus accueillir parce qu'il n'y a pas assez de salles, parce qu'il n'y a pas assez d'encadrants.
Béatrice Barbus, Sarah Danint avait une question pour vous ou une remarque.
Juste, je rebondis. Salut Béatrice, sur ce
bonjour,
que tu
Sarah,
dis.
Bonjour Sarah, bonjour.
En fait, effectivement, on est à 37% de retransmission d'épreuves sportives féminines, dites féminines, pendant les JO. Moi, ce qui me choquait le plus, parce que quand même c'est censé être les premiers jeux paritaires, même si c'était pas totalement paritaire, je vais prendre l'exemple de L'Équipe, qui est quand même le premier quotidien sportif au niveau national. Sur les 21 une, il y en a eu que deux réservées à des femmes pendant les JO.
Dont
Simone Biles et puis une américaine, ouais, je crois, au 100 mètres, exactement. Et on a, parce qu'on a encore toujours les mêmes problèmes quand même, un pourcentage qui est très faible de temps de parole pour les commentatrices sur les épreuves.
Et 18% les commentatrices.
Et ce pourcentage, il descend, ce temps de parole descend encore plus quand ce sont des commentatrices sur des épreuves d'hommes, un match de foot masculin, quelque chose comme
ça. Les hommes ont le droit de commenter les hommes et les femmes, et les femmes n'ont le droit de commenter les femmes.
Exactement. Et le dernier point, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué, mais ça fait déjà longtemps que ça existe, c'est cette hypersexualisation. Quand même, CBS a été obligé, au début des JO, je crois que c'est CBS, diffuseur officiel,
de recadrer
justement ces caméramans, pour justement leur demander d'arrêter de filmer l'entrejambe ou la poitrine. Enfin, on est quand même à l'époque, on est en 2024, c'est quand même assez affreux. Et puis encore, ce champ lexical lié plutôt à la beauté et pas forcément qui en fait abîme en fait notre performance sportive. Ça, c'est encore un petit progrès. Je pense qu'il faut peut-être pas hésiter à s'appuyer dessus, quoi.
Béatrice Barbus.
J'adore la fin de Sarah. Les progrès sont tellement petits qu'on s'accroche au moindre progrès. Et ça fait des années que ça dure. Oui, il est important, bien évidemment. Donc, que commenter? Que du classique. L'enquête de Darkom montre qu'on n'a pas beaucoup progressé. Même si on a progressé, on n'a pas beaucoup progressé. Sur la question de L'Équipe, moi, j'ai fait dans mon livre la dernière édition en 2022 du sexisme dans le sport. J'ai calculé sur les 10 dernières années les unes de L'Équipe. Bon, ça représente moins de 5% des unes de L'Équipe sur 10 ans. On est à 3,8 en moyenne, je crois. Bon, bref, un peu moins de 5% en tout cas. Donc, on se rend compte, ça veut dire que moins de 5% des unes de L'Équipe ont été constituées de sportives de 2010 à 2021, on peut dire jusqu'à maintenant.
On en revient à ce qu'on disait en début d'émission sur l'importance des role models, des modèles, tout simplement. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de médiatisation, on fait difficilement émerger des modèles. Béatrice Barbus, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous avoue que le temps est un petit peu compté, donc si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y maintenant.
Non, j'ai dit ce que j'avais à dire, il n'y a pas de souci. Puis je vous embrasse tous. Merci de mettre l'accent sur le sport féminin, on a besoin.
À vous d'être là et merci à vous d'avoir été là. Je vous salue et puis je vous dis à bientôt. Merci à Sarah Danint de s'être exprimée et merci à Sadio Comon, donc une jeune taekwondoïste qui est là pour porter la voix des jeunes filles de maintenant. Sadio, pour réagir à ce que disait Béatrice Barbus sur l'idée que on a besoin de non-mixité dans les clubs. Toi, ça s'est passé comment quand tu as commencé le taekwondo? C'était non-mixte et après, tu es allé juste avec les filles. Est-ce que ça t'a aidé?
Alors le taekwondo, il faut savoir que c'est un sport donc voilà, avec une catégorie fille et une catégorie garçon. Mais à l'entraînement, il est mixte. Donc je me suis toujours entraînée avec des garçons depuis que je suis petite. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait des petites frictions parce que voilà, les garçons, ils veulent se montrer et ils veulent montrer qu'ils sont au-dessus de nous. Et du coup, parfois, bah, voilà, en combat. Après, c'est peut-être que c'est réel, mais ça, de le montrer toujours, c'était parfois un peu énervant. Et voilà, alors maintenant, j'ai grandi et heureusement que les garçons autour de moi ont aussi grandi et ont arrêté, mais ça se ressent, oui.
Donc, quelque part, on se sent mieux, malheureusement, d'une certaine manière, quand on est entouré que de filles ou quand on est dans une ambiance moins mixte, on se sentirait mieux si on était entouré que de filles.
Oui, franchement, oui. Dans mon sport, peut-être moins que dans les autres, mais oui, c'est sûr.
Bon, un constat forcément un peu dommage. Je n'ai pas forcément beaucoup d'autres mots, c'est dommage. Mais merci en tout cas, Sadio, pour ton témoignage. Avant de se quitter, on va prendre la direction de la République démocratique du Congo, puisque ce pays, ce grand pays, a organisé en finalement assez peu de temps deux événements sportifs majeurs. On parlait des JO à Paris, mais en RDC, il y a eu les Jeux de la Francophonie à l'été 2023, donc avec évidemment des femmes comme des hommes. Il y a eu également en RDC, en novembre et décembre dernier, la CAN féminine de handball. Cet événement a-t-il pu faire avancer la situation du sport au féminin dans ce très grand pays d'Afrique? Le reportage d'Olga Massangou.
Pour une première Coupe d'Afrique des Nations organisée à domicile, la RDC, qui n'a terminé que 5e sur les 12 pays participants, peut tout de même se féliciter d'avoir relevé le défi d'une organisation réussie. Cette CAN féminine a drainé du monde et suscité, même en dehors des matchs de Léopard Handball, un engouement inhabituel pour une discipline qui n'est pas très populaire en RDC. Elle a été même source de motivation pour certaines filles. Florence Zaina est l'une d'entre elles.
Cette CAN a eu vraiment de l'impact quand on est joueuse d'une telle discipline et qu'on voit une telle compétition être organisée dans son pays. Tout ce qu'on peut se dire, c'est de bosser encore dur, bien travailler.
Mais en République démocratique du Congo, la question de l'accompagnement dans la pratique du sport se pose, d'autant plus pour les jeunes filles que plusieurs d'entre elles n'ont pas encore trouvé l'équilibre qu'il faut entre, par exemple, les études et le sport. Un choix difficile qui amène souvent les parents à privilégier l'école. Huguette Ndala a dû mettre une croix sur sa carrière de basketteuse.
J'ai commencé toute jeune et j'ai aussi arrêté tôt pour des raisons d'études. J'avais voulu continuer avec le basket, mais les parents ont décidé autrement. Je devais quitter le pays pour aller faire l'université ailleurs. Et donc, je devais choisir entre les études et le basket.
Pour encourager l'accès et la pratique du sport par les filles, en dehors des sélections nationales, le sport féminin se développe davantage depuis quelques années, avec notamment la création des sections féminines dans chaque grand club de football. Mais l'engouement du public n'est pas encore au rendez-vous pour le football féminin. Dans la pratique du sport, l'affluence du public à la CAN de handball a été une exception. Mais Bakaya, cette athlète, veut y croire.
Nous étions très émus de l'organisation de la CAN féminine de handball. Prochainement, j'espère que ça sera aussi le cas pour le football féminin. Ça pourra attirer plus de filles qui hésitent à pratiquer la discipline. Nous en avons besoin.
Pour amener plus de jeunes filles à la pratique du sport, la Fédération de handball de la RDC a d'ailleurs annoncé la relance de la pratique de cette discipline au niveau scolaire. Mais pour y arriver et pour généraliser cette pratique à d'autres disciplines sportives, il est nécessaire d'avoir une politique et des infrastructures sportives adaptées à la dimension de ce pays continent. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Le reportage d'Olga Massangou qui fait écho à ce que nous disait Adjaran Chout en début d'émission, ce Mondial Sport consacré au sport au féminin et notamment à l'adolescence. Vous pouvez bien évidemment le réécouter sur notre site internet www.rfi.fr avec les témoignages et les analyses de Sarah Danint et de Sadio Comon, jeune taekwondoïste qui a été très précieuse dans la conception de cette émission. Sadio, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu as des compétitions qui arrivent, des échéances importantes qu'il va falloir bien négocier?
Oui, J'ai les championnats de France au mois d'avril, je crois. Et donc, j'ai mon parcours de sélection pour les championnats d'Europe junior de cette année. Donc voilà, il faut que je prenne le plus de points possible au cours des compétitions qui vont arriver.
Bon, on se dit à bientôt d'ici quelques années. Tu seras au sommaire de l'émission, on comptera tes exploits. On se dit à Los Angeles ou Brisbane.
Ouais, j'espère.
On verra. Merci beaucoup, Sarah Danante. On vous retrouve demain pour parler basket. Et puis, merci à toute l'équipe. Malheureusement, j'ai plus le temps de les citer, mais merci beaucoup, beaucoup à eux, dont Valentin Vanner à la réalisation. Bonne soirée sur RFI.